pour un dessert classique et exceptionnel à la fois, la tarte aux pommes. Jour de fête ou non, certains rendez-vous sont incontournables, c'est le cas de Biosphère. Thierry Fischer évoquera une solution américaine pour récupérer les téléphones portables. Ils contiennent des produits toxiques, des métaux lourds, et pourtant il n'y a guère que 15% des téléphones portables qui soient récupérés et recyclés en Suisse. En deuxième partie d'émission, rendez-vous avec Daniel Fazan. Il est parti à la rencontre d'un jeune cuisinier formé par un certain Denis Martin. Et puis nous terminerons avec un invité passionnant, Jacques Hénard, ethnologue. Avec Dominique Jacquard, nous lui demanderons de nous rappeler quelques origines oubliées, d'où vient la bûche de Noël par exemple, comment est né le Père Noël, ou tout simplement comment la fête de Noël a-t-elle vu le jour. Un rendez-vous pris à 9h20. Très belle matinée sur la première, on en parle jusqu'à 9h30.
On en parle, Ambroise Jolidon.
Ça va faire un petit plop. Pouf ! Et voilà.
Et voilà, un bruit qui nous plonge tout de suite dans l'ambiance. Johanna Comanche, on va fêter Noël avec vous ce matin, avec nos auditeurs également, et avec Pierre Thomas. Pierre Thomas, journaliste indépendant, spécialiste du vin. Même si c'est peut-être un petit peu tôt pour ouvrir une bouteille de champagne, c'est Noël, on va pas se gêner.
Et justement, nous allons vous proposer en ce jour de fête d'explorer d'autres pistes pétillantes que le traditionnel et vénérable champagne. Un vin régional français, issu d'assemblages de chardonnay, de pinot noir et de pinot meunier. Un champion de l'export inventé par le bon moine Dom Pérignon, contemporain de Louis XIV.
Des alternatives, moi je veux bien, mais il faut qu'elles soient de bon goût et là je compte sur vous.
Économique, car entre un champagne de grande distribution à bas prix, autour des 25-28 francs tout de même, et un effervescent moins réputé, eh bien nos papilles sont en droit tout de même de balancer, non ?
Oui, alors on va commencer à pétiller avec quel vin là ?
Un italien, le Prosecco.
Il en existe deux sortes. La première, c'est celle qui est faite de façon quasi industrielle, selon une méthode qui s'appelle la méthode Charma, que les Italiens ont inventée, et qui permet, dans une énorme cuve, d'ajouter du gaz carbonique, donc de la mousse, pour simplifier les choses, au vin de base. Et puis, il y a une autre manière, qu'on appelait à l'époque méthode champenoise, mais les champenois ont réussi à faire interdire l'usage de ce mot-là. Et en Italie, on appelle ça la méthode classique. Et dans le reste du monde, la méthode traditionnelle. Mais cette tradition renvoie effectivement à la champagne. Et là, il faut savoir que dans chaque bouteille, il y a une refermentation du vin. On rajoute un peu de sucre pour ce qu'on appelle la prise de mousse. Et la prise de mousse donne l'effervescence du champagne et des autres mousseux.
Et donc, en parlant d'autres mousseux, on peut peut-être rester au sud avec l'Espagne.
Vous pensez donc à quoi ? À un cava, j'imagine.
Hein, ça,
mais
ouais.
Là, attention, parce que son goût peut être assez typé. Pierre Thomas, journaliste spécialiste du vin.
Le cava est un vin qui correspond à des goûts espagnols ou catalans, puisqu'il vient de Catalogne. Et dans tout vin, la matière première, c'est le raisin. Alors, il faut savoir que si aujourd'hui, il y a quelques cavas qui sont élaborés de façon un peu internationale avec du chardonnay et du pinot noir, en revanche, les raisins de départ sont le macabeu, le parellada et le xarello, qui sont trois cépages propres à la Catalogne, et nous ne sommes pas habitués à ces goûts-là. Il y a également une question de dosage. On peut ajouter un peu de sucre au mousseux pour le rendre plus aimable, en quelque sorte. Et donc, là aussi, il est possible que certains cavas soient un peu plus sucrés que certains champagnes. On peut préférer le côté sec du champagne au côté plus doucereux de certains cavas. Mais là aussi, c'est une question de style. Chaque maison a un style différent. Chaque cuvée est différente aussi.
Bien, un petit tour en Italie, un petit tour en Espagne et pas un mot sur la Suisse, évidemment.
J'étais sûre que ça allait vous plaire, ça.
Bah alors.
Allez, je vous rassure, c'est vraiment hors de question de faire l'impasse. La Suisse, au troisième rang des pays consommateurs de champagne, c'est aussi par sa production faire pétiller les papilles, mais des avertis.
Alors effectivement, les Suisses ont d'une part pratiquement le climat de la champagne. On a l'encépagement de la champagne, on fait du pinot noir, on fait du chardonnay. On n'a pas de pinot meunier, alors pratiquement pas, encore que je connaisse un petit producteur qui en a à Comugny. Deuxième chose, il faut des manipulateurs. Alors nous avons deux manipulateurs principaux en Suisse romande, qui sont des artisans, qui ont un excellent savoir-faire. Il y en a un à Matot, dans le canton de Vaud, et un autre dans la région de Genève, à Cartigny.
Vous me citez deux lieux, mais il me semble que les Valaisans, les Neuchâtelois font aussi, on n'a pas le droit de dire du champagne, mais font des effervescents.
Tout à fait. Alors là aussi, il faut faire une distinction entre deux manières de faire le mousseux, n'est-ce pas ? La première, c'est la méthode traditionnelle, qui est la méthode champenoise, fermentation en bouteille, et l'autre méthode, qui est celle de la cuve close. Donc on trouve même en Suisse romande des grands négoces, des grandes caves qui font de la cuve close. La méthode traditionnelle nécessite, de la part du vigneron, un savoir-faire et des installations qui sont très particulières. C'est pour ça qu'il y a deux manipulants en Suisse romande.
Donc vous voulez dire selon la méthode traditionnelle ?
Selon la méthode traditionnelle, en gardant, et c'est là tout le secret aussi du champagne, en gardant les vins assez longtemps en cave pour qu'ils aient le temps de mûrir. On appelle ça le séjour sur latte. Et il faut également, quand on parle de manipuler le champagne, il faut tourner les bouteilles pour que les levures s'incorporent au vin quand il y a refermentation. Et ensuite, on les expulse avant de mettre une dernière fois le dernier bouchon pour l'expédition. Et on rajoute un peu de sucre pour donner un petit peu un goût qui peut être un peu différent à la dernière minute à ce vin effervescent. Donc il y a tout un savoir-faire assez complexe derrière une bouteille de mousseux faite selon la méthode dite traditionnelle.
À vous entendre, on a l'impression que si ce n'est pas fait selon la méthode traditionnelle, vous ne trouvez pas ça terrible.
Effectivement, la méthode traditionnelle est quand même, donne plus de complexité au vin.
Et c'est une information que vous ne trouverez pas forcément sur l'étiquette.
Alors sur le vin suisse, vous n'aurez pas grand-chose parce que la législation est moins dure qu'en Champagne. Elle exige moins de mentions sur l'étiquette. Vous ne saurez pas si c'est une méthode en cuve close ou bien une méthode traditionnelle, à moins que ça soit précisé, parce qu'on peut le faire. Il ne doit pas y avoir tromperie au consommateur, bien sûr. On ne peut pas étiqueter méthode traditionnelle si on a fait une méthode en cuve close. Et vous n'avez pas d'appellation d'origine pour le mousseux ou pour l'effervescent. En dehors de la Suisse, toutes les autres appellations d'origine contrôlée, que ce soit le cava espagnol, que ce soit la clairette de Die française, très peu alcoolisée, ou le prosecco, eh bien vous avez chaque fois un cahier des charges. Alors, vous devez évidemment le connaître un peu parce que l'étiquette ne peut pas détailler un cahier des charges. Mais disons que quand vous avez une mention, vous avez l'assurance que le vin a été fait dans les règles de l'art, règles qui changent d'une région à l'autre.
Faire le choix d'un vin suisse, il est beaucoup plus périlleux puisque sur l'étiquette, j'aurai moins d'indications.
Non.
Vous êtes très embêté, hein ?
Non, je ne suis pas du tout embêté parce que, en général, les vignerons qui élaborent des effervescents sont des vignerons connus. Vous irez peut-être acheter, du reste, ce produit chez le vigneron parce qu'il ne se trouvera pas en grande surface. Et là, vous pourrez discuter du mode d'élaboration. Il sera très content de vous expliquer comment il a fait ce vin-là parce que, finalement, les Suisses sont très fiers d'élaborer des vins effervescents et ils n'ont pas à rougir de la concurrence étrangère. Ils font d'excellents vins.
Quel prix, selon vous, il faut mettre quand même pour avoir un bon effervescent suisse?
Alors, je pense que nous sommes en général dans les 20 francs quand même, entre 18 et 25 francs. Donc, en dessous du premier prix du champagne.
Ah, j'adore ce bruit.
Vous en avez remis un, oui. D'accord.
J'adore.
À boire de toute façon avec modération, on ne le dira jamais assez et c'est comme ça qu'on profite des bonnes choses en règle générale. Bah, Johanna, il me reste qu'à vous souhaiter un joyeux Noël.
Et puis si je peux me permettre, elle est facile mais elle est vraiment sincère. Comme je ne serai pas là le 31, je vous souhaite à tous une année pétillante.
Et à 8h43, on passe à notre dernier rendez-vous à Sierre, dans les cuisines de Didier de Courtonne, pour ce jour de Noël. Et comme dernière étape, il nous propose un dessert mythique qui a bercé nos enfances, ou nos 4 heures, chez grand-maman par exemple. Une tarte aux pommes et des crêpes croustillantes, glace tatin et caramel à la cannelle et beurre salé. Thank you. visiblement quelques peines à se rendre jusqu'aux cuisines de Didier de Courtonne. Alors, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Peut-être le jour de Noël qui nous joue quelques tours. Je regarde le technicien qui est en face de moi, qui est en train d'essayer de retrouver Didier de Courtonne, parce que, décidément, goûter à cette tarte aux pommes, ce ne serait pas quelque chose de trop décevant. Je ne sais pas ce que vous en dites à cette heure-ci. Non, devant les grands doutes de Rodolphe, notre technicien, je crois qu'on va directement enchaîner avec Thierry Fischer. Merci de nous avoir rejoints si vite. Thierry, bonjour.
Et joyeux Noël.
Joyeux Noël à vous. On va parler récupération de téléphones portables. Des téléphones portables qui sont assez peu récupérés. En tout cas, la récupération est limitée en Europe. En Suisse, on compte environ 15% de récupération des téléphones mobiles. Cette proportion pourrait très bien s'élever à 80%, comme c'est déjà le cas pour les ordinateurs.
Ben oui, pourquoi pas, nos appareils de communication contiennent, vous le savez peut-être, des substances toxiques comme le barium ou encore le beryllium, ainsi que des métaux lourds. Aux États-Unis, la situation est quasi identique, la récupération reste assez limitée. Raison pour laquelle la société américaine EcoATM vient d'installer des collecteurs automatiques de téléphones à San Diego pour l'instant. Mark Bowles, l'un des fondateurs d'EcoATM, interrogé et traduit par notre correspondant Patrick Chaboudet. Écoutez.
So the EcoATM is designed to automate the inspection.
Avec cet appareil, on peut de manière automatique inspecter un téléphone portable et évaluer son prix de revente. L'idée, c'est d'étendre prochainement ce service à tout l'électronique de loisir. Il s'agit à la fois de recycler et de revendre. Aux États-Unis, où nous avons déjà quelques appareils, la moitié environ des téléphones portables qui sont récupérés n'ont plus de valeur marchande, donc on les recycle. Pour l'autre moitié, nous trouverons un marché pour les écouler.
Alors l'automate, il suffisait d'y penser, me direz-vous, c'est tout simple, mais l'idée s'est imposée seulement progressivement.
On a eu l'idée dans un café en lisant un sondage fait dans une quinzaine de pays qui montrait que 3% seulement des personnes interrogées avaient recyclé un jour un téléphone portable. Et chaque année, on en vend plus d'1 milliard dans le monde. Si 3% seulement sont réutilisés, il y a clairement un problème à résoudre. On a pensé à plusieurs options, utiliser par exemple les Boy Scouts pour faire du porte-à-porte et récupérer les téléphones. Mais avec ce système automatique, c'est plus efficace, c'est pratique, il y a une incitation financière et c'est écologiquement responsable.
Bref, tous les avantages sont réunis pour voir ce système se répandre.
Et oui, avec en bonus l'avantage économique, les Américains, vous les connaissez, le calcul est vite fait. Écoutez encore Mark Bowles.
Every year, US consumers retire.
Chaque année, les consommateurs américains cessent d'utiliser l'équivalent de 25 milliards de dollars d'appareils électroniques qui fonctionnent encore très bien. Ils traînent dans des tiroirs, des garages, ils se dégradent et sont finalement jetés aux déchets. Nous, on veut les récupérer quand ils valent encore 25 milliards de dollars et les remettre en circulation dans le marché de l'occasion. Dans les 4-5 prochaines années, il y aura 2 milliards d'abonnements téléphoniques supplémentaires, surtout dans les pays où le salaire annuel ne dépasse pas 1 000 dollars. Un téléphone neuf est hors de prix, mais pas un modèle d'occasion.
Ouais, les chiffres donnent le tournis. Hein. L'automate américain calcule donc l'argus de votre téléphone. Hein. C'est automatique. Un automate peut-être assez complexe, assez cher à réaliser, mais ça vaut peut-être la peine. Donc, et il verse ce montant sur le compte du détaillant de votre choix. Ça se passe comme ça aux États-Unis. Mais on peut très bien imaginer que le versement s'effectue sur votre compte de communication chez votre opérateur.
Mm-hmm. Pourtant, la récupération en Suisse reste pour l'instant très embryonnaire.
Voire des Swisscom, par exemple, n'a pour l'instant aucune stratégie sérieuse à l'égard de la récupération des portables. Une situation qui trouve peut-être une explication. Écoutez Nadia Belen, porte-parole de Greenpeace.
En Suisse, les consommateurs payent une taxe anticipée de recyclage incluse dans le prix d'achat des appareils électroniques et des téléphones portables. La taxe permet d'une part de payer les usines qui traitent les déchets électroniques, par exemple l'usine Cablofer de B, et elle oblige d'autre part les producteurs à récupérer les appareils qu'ils ont mis en vente. Donc le cadre législatif est pour nous satisfaisant, mais il est vrai qu'on pourrait imaginer des mesures plus incitatives pour pousser les consommateurs à restituer leur téléphone portable lorsqu'ils pensent que celui-ci est usagé.
Quelle piste vous imaginez ?
Toutes sortes de pistes. On pourrait déjà, à l'achat du téléphone portable, on pourrait inciter ou informer le consommateur du fait qu'il existe un système de récupération et que ce système de récupération est obligatoire. Je pense que beaucoup de consommateurs ne le savent même pas.
Et donc informer davantage, c'est déjà une piste. Le collecteur automatique de téléphone, ça semble être vraiment la bonne idée aussi.
Ah, moi je pense, cette idée de l'entreprise américaine pourrait très bien être importée, des risques de pollution ou des risques sanitaires seraient ainsi évités, probablement à la satisfaction de tous, sans compter évidemment un développement plus marqué du marché de l'occasion, parce qu'actuellement, la récupération des téléphones portables, c'est encore un système un petit peu bon enfant. Voilà, tous les liens et toutes les informations, bien sûr, la plateforme, vous la connaissez désormais, biosphere.rsr.ch.
J'allais le dire. Merci beaucoup, Thierry Fischer.
Allez, bonne semaine.
Bonne semaine à vous et bonne année, parce que je ne crois pas que je puisse vous revoir d'ici à l'année prochaine. Normalement, le Père Noël nous a livré le sujet de la tarte aux pommes avec Didier de Courtonne. Ben ça, on va le vérifier pas plus tard que tout de suite.
Page 26-28, c'est la tarte aux pommes.
Ça peut paraître banal, mais c'est une tarte aux pommes un peu avec une nouvelle version où on a essayé d'amener un petit peu toutes les saveurs de notre enfance qu'on a envie de retrouver dans une tarte aux pommes. C'est une tarte aux pommes qui est assez particulière parce qu'elle est surmontée de crêpes à la cannelle, d'une glace qu'on a appelée glace tatin. C'est une glace qu'on a fait avec des pommes cuites caramélisées. Et c'est vrai que quand on mange cette tarte, on a des saveurs de vanille, de cannelle, de rhum brun, de cassonade. C'est comme un bonbon anglais. C'est vraiment une tarte très très particulière avec l'utilisation aussi du cœur de la pomme pour la tarte, comme assise. Mais on utilise aussi les épluchures des pommes pour en faire un coulis. En plus, on rajoute quelque chose que les enfants adorent, c'est un caramel au beurre salé.
Bon, on a très envie d'apprendre à la faire, alors qu'est-ce que vous avez préparé ?
La première chose, c'est on a fait le feuilletage, on a découpé nos pommes, on a épluché nos pommes, on a découpé nos pommes et on a bien sûr enfourné les tartes. Puis ça demande quand même une vingtaine de minutes de cuisson. Là, on va faire le caramel.
Alors, qu'est-ce qui est préparé là ? Ça, c'est une épice.
Oui.
Donc, vous avez un bâton de vanille.
Alors, on a un bâton de vanille, on a du sucre semoule, on a un petit peu de vieux rhum brun, du jus de citron, un peu de coulis de fruits de la passion, et de la pulpe de mangue fraîche. Donc, on a aussi fait des petites tuiles, parce que j'adore les tuiles. Hein. Vous avez
vu,
hein ?
J'ai vu, oui.
Des oranges séchées. On a aussi des...
C'est bon.
C'est pas de la cannelle, hein. C'est de la cannelle casse. Donc c'est l'écorce du cannelier. Hein. Donc c'est beaucoup plus subtil que la cannelle. Si on goûte un petit peu, on met ça un peu en bouche, on a un côté un peu poivré qui ressort, qui est plus subtil que la cannelle.
Oui.
Donc ça a servi aussi à parfumer ces petites crêpes. Là, on les a fait rondes, on peut les faire triangles. Donc elles vont être comme ça sur la tarte avec la glace au milieu. Petite fleur de sel de Guérande.
Là quand même.
Oui, on va mettre 2-3 petites fleurs de sel sur l'assiette. On va retrouver en contraste avec le caramel au beurre salé.
Et là.
Et puis ici, on a donc les petits cornets qu'on a réalisés donc avec les...
C'est quoi ? C'est bon.
Ça, c'est la pomme. Ça, c'est avec les épluchures des pommes.
C'est excellent.
Voilà, donc rien ne se jette. Hein. Tout se transforme d'ailleurs.
Mais ça, c'est du boulot, hein.
Sous la forme de purée.
Donc on les cuit.
Oui, c'est et puis ensuite on la transforme en purée. On peut les faire aussi avec des pommes Granny Smith, des pommes vertes. Là, ce sont des pommes gala. Hein, donc,
Je goûte caramel au beurre salé. Ah, c'est bon.
Ah oui, c'est génial.
Oui.
Ça, c'est le beurre qui nous donne l'onctuosité. C'est tout simple. On réalise un caramel avec son sucre, un caramel sec. Ensuite, on va déglacer avec... un peu de citron, la crème, un petit peu de poudre de cannelle. Et puis ensuite, on rajoute à la fin notre beurre salé. Et puis un petit peu de nappage abricot.
Tout ça pour mettre après sur la pâte. Voilà. Sur la...
Et tout ça, c'est fait d'avance encore. Mm-hmm. La seule chose qu'on a à faire maintenant, c'est d'attendre que la cuisson des tartes se termine. Après, on va les glacer, puis on va faire le dressage.
Alors, la préparation du dressage commence.
Voilà.
Grande assiette.
Là, on a une assiette qui est...
immense.
Oui, ça, c'est une assiette concentrique, hein, avec des cercles ronds, mais on peut prendre une assiette plus simple.
Hein. Oui, mais ça fait très mise en scène, comme ça, je trouve que ça la met en valeur.
Hein.
La purée de fruits, au nord et au sud.
Chaque chose, oui. Là, je prends la purée de pommes. Hein.
Mm-hmm.
C'est pas uniquement visuel, hein. C'est vraiment... qu'on ait le goût hein, des choses, donc on le met vraiment...
Là c'est vert, c'est un peu plus acide.
Voilà. Donc.
Et là
le caramel.
Mmh.
Et je reproduis exactement, donc...
C'est comme une palette.
C'est demi-cercle vraiment de chaque côté. Donc là par exemple, on a le glaçage qu'on a réalisé avec le... Vous pouvez tremper le doigt dedans. Hein.
Oui, je trempe le doigt. Mmh, c'est un peu abricot. Abricot ou... Non, c'est mangue.
C'est
mangue.
Voilà, mangue, passion, rhum, vanille.
Mmh, passion, mangue, vanille. Oh, voilà les tartes.
C'est au moment où la tarte sort du four, la pomme est... C'est pour ça qu'on ne peut pas cuire les tartes aux pommes comme ça d'avance.
Oui.
La tarte a tendance à gonfler.
Oui.
Il faut la servir tout de suite.
Voilà, vous la prenez au milieu de l'assiette, au milieu de la palette. Qu'est-ce qu'on va mettre au milieu?
Non, mais une petite... ça fait une crème vanille, mais non, on appelle ça... Ouais, une petite espumasse à la vanille, comme au centre. Et maintenant, on va mettre une grosse quenelle de glace tatin au centre de cette tarte chaude.
Et ça vient bien sûr en fin de repas.
En fin de repas, voilà. Oui. C'est la touche finale.
On peut aussi commencer à faire une recette chaque fois, à réussir et ensuite les faire toutes.
Moi, je pense que si je veux donner un conseil, il faut déjà essayer parce que inviter du monde et puis se lancer dans une aventure comme ça, c'est un peu épique. Déjà, c'est stressant, donc il faut peut-être essayer une recette et puis après la proposer à ses invités, mais une après l'autre, oui. C'est une bonne idée.
D'accord. Voilà, on se quitte là avec cette petite tarte aux pommes.
Eh oui, merci de la visite.
Merci à vous.
C'était le dernier épisode de cette série concoctée par Lydia Gabor avec Didier de Courten du Terminus à Sierre.
Parmi les morts, inutile de m'adorer. Dans ce burin d'idéaux où tout fabrique des sauts, par la chose immuable, je n'ai plus confiance en vous. Le coordinaire des choses me va comme un incendie. Tous les yaks en moi, tous les rêves se sont accumulés. Saint envolé est venu visiter l'exposition. Tant curieuse, vierge utile, je mets ma tête. La chambre obscure,
chambre obscure où tu m'allaites. Tel cerveau, tel facteur. Tout ça varie, tout se dise. Mange pas en briolet, à la neuf, tout le vice.
Jean-Louis Murat sur La Première. Bonjour Daniel Fazan.
Bonjour Ambroise.
On se retrouve juste après les infos de 9h, histoire de goûter à des choses absolument délicieuses.
La Première vous offre l'heure.
Très belle matinée sur La Première, il est 9h.
RSR. Valérie Droux.
Les chrétiens du monde entier ont célébré la nuit de Noël la nuit dernière. À Rome, la messe de minuit a été avancée à 22h pour ménager le pape qui a fustigé l'égoïsme dans son homélie. Benoît XVI qui a fait une chute hier pendant la procession pour entrer dans la basilique Saint-Pierre. Il a été poussé par une femme présentée comme psychologiquement instable qui s'est jetée sur lui. Il n'a pas été blessé. Comme tous les ans, le roi d'Espagne, Juan Carlos, a délivré son discours traditionnel à la veille de Noël, hier soir. Mais cette année, c'est une première, ce discours a été retransmis à la fois à la télévision basque, c'était la seule région dans laquelle ce discours n'était d'habitude pas retransmis, Valérie Demont.
L'apparition du roi dans les télévisions basques représente un signe de normalité institutionnelle, comme l'a expliqué le nouveau patron de cette radio-télévision régionale. Car selon lui, ce média s'adresse à tous les citoyens et pas seulement à ceux qui pensent de manière nationaliste. Cette nouveauté s'explique par le récent changement en mars dernier du gouvernement régional basque, dirigé aujourd'hui par les socialistes en alliance avec la droite. Depuis le début de la démocratie en Espagne, les nationalistes étaient au pouvoir au Pays basque espagnol et n'apprécient pas forcément de manière générale le système monarchique. Les socialistes en place ont promis depuis des actions symboliques fortes pour montrer la pluralité de la population basque, l'objectif étant de revenir à une certaine normalité. Les cartes météo de la télévision montrent par exemple désormais le temps qu'il fait seulement pour la seule région du Pays basque espagnol, alors qu'auparavant les cartes montraient le Pays basque espagnol, la région voisine de Navarre et le Pays basque français que les indépendantistes veulent réunir. Valérie Demont, Radio Suisse Romande, Madrid.
Barack Obama est sans doute parti soulagé à Hawaï pour ses vacances de fin d'année. Hier, peu avant son départ, le Sénat avait accepté sa réforme de l'assurance maladie. Le président américain a qualifié le vote d'historique. Dernier obstacle encore, le texte accepté devra maintenant être fusionné avec celui voté par la Chambre des représentants. Patrick Chaboudet.
Un obstacle encore, effectivement, mais qui ne paraît pas infranchissable. Sur l'essentiel, les versions du Sénat et de la Chambre sont proches. Les deux prévoient une extension de la couverture santé à plus de 30 millions d'Américains, une réglementation plus stricte des assurances privées, des aides financières pour les plus démunis et des mesures pour limiter les coûts de la santé. Il y a tout de même une divergence majeure. Les démocrates de la Chambre des représentants veulent créer une assurance gouvernementale pour faire concurrence aux caisses privées, une idée nettement rejetée par le Sénat. Discussion tendue en perspective, mais si près du but, on voit mal des élus démocrates prendre le risque de faire échouer cette réforme, la première sur le point d'aboutir depuis 45 ans. Patrick Chaboudet, Radio Suisse Romande, Washington.
C'est la faute de la Suisse. Cyberne et Tripoli sont en froid. C'est le point de vue officiel du gouvernement libyen exprimé dans un document publié sur son site internet hier. Le texte de 4 pages est adressé par les Libyens au département fédéral des affaires étrangères qui n'a pas commenté l'information. À Neuchâtel, la stratégie de la droite se précise en vue de l'élection complémentaire pour remplacer Didier Burkhalter au Conseil des États. L'UDC a prévu de laisser sa place s'ils arrivent derrière les libéraux radicaux au premier tour pour éviter que ce soit la gauche qui prenne cette place. La présidente du PLR neuchâtelois, Violaine Blétry de Montmollin, se réjouit des bonnes intentions de l'UDC.
C'est une prise de position qui est raisonnable. On sait que la gauche part unie pour cette élection pour le Conseil des États. Donc je crois que c'est raisonnable de se dire que le meilleur candidat de la droite doit être soutenu par une droite entière pour le deuxième tour pour avoir des chances de sauver le siège.
Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à rendre la réciprocité à l'UDC ?
Dès le moment où j'ai entendu que l'UDC partait entre guillemets, au combat pour ce siège, j'étais un petit peu surprise, mais j'ai quand même dit qu'il fallait être cohérent, que la droite devait continuer de travailler comme elle avait travaillé depuis quelques années, que ça nous avait réussi. Et puis qu'en ce qui me concerne, je pense que c'est le meilleur de la droite qui doit continuer au deuxième tour. Nous allons avoir un comité cantonal le soir du premier tour et une assemblée générale le lendemain qui va décider si nous partons ou non au deuxième tour, évidemment en fonction du résultat de M. Comte.
Des propos recueillis par Stéphane Delery. À Fribourg, le 5e festival de soupe prend fin ce soir. Un festival qui réunit durant 2 semaines toutes les classes de la population autour d'une soupe à la place Thérèse Piton. Mais hier soir, le repas de Noël était plus copieux. Cochon de lait, gratin de pommes de terre et légumes. Pierre Yenny a demandé à Samuel Onti, l'un des organisateurs, si ce repas était l'emblème de l'esprit de Noël.
Certainement, c'est vrai que c'est un jour de fête, donc on pense peut-être plus aux autres.
Qu'est-ce qui fait que la sauce prend, ou qu'est-ce qui fait la magie de ce festival de soupe ?
Une ambiance assez particulière, c'est vrai que ce kiosque à musique, ça fait une forme, ça a un peu une forme de lanterne comme ça qui est illuminée. Donc ça crée une ambiance spéciale, le fait d'avoir de la musique, et puis surtout que les gens viennent ici pour vivre un bon moment, et puis pour passer un bon moment avec d'autres, s'ils sont seuls, ou bien casser un petit peu leur quotidien. Le festival de soupe est un chouette endroit pendant deux semaines de l'année, quoi.
Les talibans ont diffusé ce matin une nouvelle vidéo montrant un soldat américain capturé il y a 6 mois en Afghanistan. Les premières images du militaire avaient été publiées en juillet. Dans la vidéo d'aujourd'hui, le soldat explique que la guerre échappe à l'armée américaine et que le peuple doit se dresser contre cette absurdité. Fin de citation. C'est le premier soldat américain capturé par les talibans. Éric Fauchère.
Le temps en Suisse romande reste couvert et pluvieux ce matin. Un front froid rafraîchit l'atmosphère et fait baisser la limite des chutes de neige. Elles atteindront les 600 mètres à la mi-journée, mais les averses diminueront progressivement. Cet après-midi, le temps s'annonce généralement sec et quelques éclaircies seront possibles localement. Il fera 5 degrés au maximum. Un vent d'ouest souffle de manière forte en montagne, mais aussi sur les régions du plateau. La prudence est de mise proche des lacs. Les couleurs du ciel de demain auront des teintes plus clémentes, les pressions remontent et le temps s'annonce bien ensoleillé malgré des voiles nuageux en altitude. En matinée, quelques bancs de grisaille seront présents sur le plateau, il fera 2 degrés au maximum. Pour dimanche, le ciel reprendra des couleurs plus grises, il sera couvert et on attend des précipitations.
La météo
avec la Fondation Pierre Dianada et son exposition
« Images saintes de Russie ».
Promesses d'aventure. Suivre un banc de thon, accompagner les dauphins, nager avec le grand requin blanc. Océan, le film que réalise Jacques Perrin, nous permet d'être un poisson parmi les poissons. Sorti sur les écrans romans le 27 janvier. L'océan, c'est quoi l'océan ? Embarquement pour un voyage unique dans presque rien sur presque tout, le 3 janvier à 17h avec Stéphane Durand, qui signe le livre Océan, et le 8 janvier à 17h avec Jacques Perrin, réalisateur. La première vous invite à voir ce film en avant-première, le dimanche 3 janvier dans plusieurs villes de Suisse romande. Pour obtenir une invitation et faire votre choix, appelez le 021 318 18 56.
On en parle, Ambroise Jolidon.
La cuisine en station ne se résume pas forcément à l'assiette skieur, il y a d'autres surprises.
Premier service avec café Kikodoro en portion sachet Chalda.
À Champéry, à 13 km de la plaine, le C21 vient de décrocher une étoile au Michelin. Toutes les inventions du chef Denis Martin de Vevey sont proposées en tapas dès 16h, tous les jours en saison. Car Denis Martin a fait école en prenant sous son aile un stagiaire de talent qui fait précisément du Denis Martin. C'est une cuisine réplicable vraiment, Daniel Fazan ?
Ah oui, assez facilement, il faut le dire. Cette cuisine est une sorte d'ordre de marche dans l'exécution, même si dans l'énoncé des plats, il y a beaucoup de poésie. Les techniques sont affûtées et Callum Todd est souvent à Vevey dans le laboratoire de recherche de Denis Martin. Ils travaillent ensemble, ce qui fait que, main dans la main, tous deux font avancer les découvertes de cette cuisine dite à défaut, ma foi on ne sait jamais comment l'appeler, moléculaire. Alors il y avait un dîner de presse l'autre soir et puis les nouveautés sont, pour certaines en tout cas, des nouveaux plats tout à fait ébouriffantes. Leur créativité est vraiment explosive. Alors un plat ou deux sont relativement moyen, il y en a un que je déteste, vous le découvrirez tout à l'heure, et d'autres sont au sommet de l'astuce et du goût. Alors nous vous donnerons en fin de séquence une recette, je trouve vraiment géniale à faire et vraiment marrante.
Vous avez prononcé un nom tout à l'heure, Callum Todd, qui est-il ?
Alors c'est un homme jeune de 31 ans, très curieux de tout, exigeant évidemment et rigoureux. Il est bien entouré au C21 à Champéry parce qu'il y a un sommelier parfait, un service efficace, une chouette équipe, je dirais, souple, marrante aussi. Et puis la première question que l'on a envie de poser à Callum Todd, évidemment, c'est d'où il vient avec cet accent charmant.
De l'Écosse.
Et vous avez un nom gaélique, un nom très étrange, Callum, ça vient d'où ? C'est écossais ?
Oui, tout à fait, c'est Gaelic, c'est un nom qui est... Ouais, c'est...
Hors de l'Écosse, c'est très rare d'entendre ce nom.
Alors, c'est extraordinaire. D'abord, vous découvrez toutes les recettes de Denis Martin, tous les secrets, en quelque sorte. Et puis, aujourd'hui, vous les appliquez ici au C21 de Champéry. Ça marche bien. Alors, c'est évidemment une cuisine extrêmement précise. Moi, je vous ai vu travailler en cuisine. Il faut avoir un chronomètre dans les mains, pratiquement, pour certaines recettes. Il faut aussi un pèse-lettre au gramme près. Pour faire.
Ouais, c'est comme si... même.
Au milligramme même. Oui, oui, c'est d'une précision incroyable. C'est pas un peu trop militaire? Vous avez une marge de manœuvre quand même pour créer quelque chose avec lui?
Oui, bien sûr. Chaque fois que je descends de VV, on travaille ensemble. Et puis, c'est très important. Je crois que les deux restaurants, ils sont différents. Donc, moi, je me suis chef de cuisine ici. J'ai le droit de présenter les idées pour certains plats et puis voilà, on discute ensemble. Mais il y a toujours le tel de rigueur que tu trouves avec Michel Martin. C'est vraiment un rigueur qui est beaucoup plus haut que 90% des autres restaurants. Donc il faut appliquer ça aussi.
Oui, c'est ça, il faut être exact. Alors, est-ce qu'il y a des plats de Denis Martin que vous faites, que vous êtes obligé de faire et que vous n'aimez pas forcément au niveau du goût et des saveurs?
Non. Pas vraiment, d'être honnête. Il y a peut-être un élément dans une assiette que tu trouves pas tel, forcément à ton goût, mais ça arrive.
Alors, moi, j'ai trouvé, Callum Todd, qu'il y avait un plat que je trouvais raté dans la démonstration l'autre jour du dîner de presse. C'était cette éponge pour pomper un jus, qui était un jus pas mal, mais cette éponge, racontez-nous comment elle est faite, parce que je trouve que sous la langue, c'est assez horrible que de manger une vraie éponge, celle qui se trouve à côté de l'ardoise pour effacer les traces de craie. Ça se fait comment, cette éponge?
Alors, c'est un mélange des œufs, de farine, et puis de l'eau qui est aromatisée avec du romarin. Et puis, les cuissons, c'est dans le micro-ondes. Et ça fait un vrai éponge avec une texture fantastique.
Bon, on peut trouver ça fantastique, on peut aussi trouver ça pas bon. Il y a des produits qui sont extraordinaires. Il y a des inventions. Chaque saison et chaque semaine ou chaque mois, il y a un produit nouveau, une association, un alliage, une invention.
Ben oui, chaque mois, on fait beaucoup, beaucoup de recherches. La plupart des recherches se fait à VV, comme je vous expliquais, hein, quand je descends de VV. Puis maintenant, je descends une fois par mois pendant la saison. Et puis, s'il y a fermeture ici entre saisons, c'est normalement à VV en décembre pour regarder comment il fait maintenant et puis pour regarder les nouvelles recettes.
Alors, il y a une recette de Denis Martin que je trouve extraordinaire, c'est le pigeon voyageur qui se cuit sous vide. Pouvez-vous nous expliquer ça? Parce que ça, c'est une chose relativement simple et relativement classique qu'on peut pratiquement faire soi-même.
Non.
Comment non?
Non, on ne peut pas faire soi-même parce qu'on n'a pas une machine sous vide, on n'a pas...
Mais on peut le cuire d'une autre manière quand même.
Oui, ça c'est bien possible, ouais. Mais,
Alors comment on pourrait s'y prendre pour faire ce suprême de pigeon avec de la résinée, qui est une chose relativement simple?
Oui, c'est relativement simple, mais...
Mais non.
Oui, non, il faut la machine sous vide.
Bon, vous avez vos techniques et la nouvelle technologie, vous êtes beaucoup aussi. Il y a notamment les siphons à gaz qui vous font des matières et des émulsions qui sont relativement faciles à faire.
Oui, le pareil là, ici, c'est le même que les grands-mamans utilisent pour faire les crèmes chantilly. Mais nous, on prend cet appareil et puis on allait un peu plus loin. Mais cet appareil, c'est loin d'être le plus scientifique des appareils qu'on travaille avec. Donc,
Oui, les appareils les plus scientifiques et les derniers arrivés ici sont ces appareils extraordinaires qui permettent de faire des distillats, c'est-à-dire des saveurs et des extraits de saveurs, notamment par exemple de pain grillé qu'on ne pouvait pas faire autrefois.
Exactement, ouais. Et puis aussi, on travaille avec un thermoplonge, ce qui est un appareil scientifique qui nous permet de mettre des choses en sac sous vide. Et puis, on avait une cuisson jusqu'à un dixième degré. Donc, c'est aussi une technique qui, parce que les choses sont cuites en sous vide, ça garde beaucoup, beaucoup plus de saveur.
Alors, ce qui est aussi d'extraordinaire et qu'on ne peut pas employer chez soi, c'est l'azote liquide qui cuit à un degré de froid extraordinaire qui est très dangereux à manipuler et que vous êtes le seul à pouvoir et autorisé à manipuler.
Oui, sûrement moi qui a l'autorité de toucher l'azote liquide.
L'azote liquide, c'est à combien de degrés en dessous de zéro?
Le mois 196.
196 degrés Celsius, ouais. Parce qu'en Fahrenheit, ça fait combien?
Beaucoup.
Oui, c'est précis. Oui, alors, il y a, Callum Todd, un plat que j'aimerais que vous nous expliquiez, qui sera la recette de la semaine et la recette la plus déjantée que j'ai jamais mangée et que je trouve vraiment extraordinaire et formidablement réussie. C'est un filet de poisson. Alors, vous allez nous expliquer comment vous faites ça.
Alors, le poisson, tout simplement, c'est de merlan. Un excellent poisson pour ce qu'on fait avec, ça c'est de friture. Et puis on prend notre filet de poisson et on enrobe avec du cropoc haché.
Alors pour faire tenir le cropoc, on va quand même expliquer ce qu'est le cropoc, c'est-à-dire que c'est un produit asiatique et notamment indonésien qu'on trouve dans les grands magasins, qui est cette chips de crevettes que l'on trouve la plupart du temps faite, mais lorsque la matière première existe telle qu'elle dans un cornet en plastique, ça ressemble à une monnaie transparente, à la monnaie du pape, par exemple, pour ceux qui connaissent ça, qui ont ça dans les jardins en été, et puis qu'on souffle et qu'on frit à l'huile de friture. Hein. Ouais. Alors, l'intérêt, et c'est l'enrobage. Alors, pour fixer cet enrobage, il faut bien, autour du poisson, fixer, notamment, vous le brisez d'abord, ce cropoc.
Oui, hein. Oui, tout à fait. Et puis, d'abord, on passe le poisson dans le blanc des œufs.
Et ensuite, ces cropoc qui sont donc nature, avant d'être soufflés, sont brisés de quelle manière?
Tout simplement dans un mixeur.
D'accord. Alors, il ne faut pas les réduire en poussière, mais lorsqu'on a ça, on a des petits cristaux, en quelque sorte, des petits morceaux. Hein,
voilà, ouais, tout à fait.
Alors ensuite, très cher Callum, expliquez-nous, parce que ce n'est pas un grand secret, il y a quand même un petit peu de poivre et de sel?
Ouais. Oui, tout à fait.
D'accord. Alors une fois qu'on a fait ça, on enrobe de ces morceaux et de ces cristaux de cropoc le filet de poisson et ça va adhérer à la peau de la bête. Et puis ensuite, hop.
Hop, dans la friteuse, à 200 degrés, même pas 30 secondes.
Alors c'est absolument prodigieux parce que le poisson, il reste moelleux, il est délicieux, il a un goût de crevette de mer, donc un petit peu amplifié. Et puis, il a une texture, mais géniale.
Oui, tout à fait. Ce que je trouve exceptionnel avec ce plat aussi, c'est que de temps en temps, quand on fait le poisson dans la friteuse, par exemple dans le tempura, c'est possible de, après avoir les graisses, le tempura, c'est pas toujours assez croquante, mais avec cette technique ici, on n'a pas le côté beaucoup, beaucoup de graisse et puis un côté très intéressant, croquante de le chips de crevettes.
C'est absolument fabuleux. Et ça, c'est vraiment une invention extraordinaire. Mais il faut expliquer aussi que l'aspect, ça ressemble à un bloc de corail.
Oui, tout à fait. Ça, c'est un plus pour nous.
Oui, c'est esthétique, c'est beau, c'est bon. Et en plus, c'est logique.
Oui, tout à fait. Encore, c'est de produits de mer avec de produits de mer. Mais voilà.
Alors, il y a une invention toujours possible, c'est-à-dire que là, c'est une véritable découverte. Dans le fond, dans la recherche, il y a aussi des plats qui vont rester sur le bas-côté de la route et qu'on va oublier parce qu'ils ne sont pas formidablement réussis, on est d'accord?
Oui.
Lesquels?
Je ne veux pas dire.
Il y a aussi des secrets de ce côté-là. La recette de ce plat absolument étonnant est sur notre site internet onenparle.rsr.ch. On peut la recevoir par courrier conventionnel, Daniel.
Si vous nous envoyez une enveloppe affranchie portant votre nom et votre adresse à émission, on en parle. Premier service, Radio Suisse Romande, case postale 1010, Lausanne.
Et vous avez expérimenté le poisson que vous m'avez apporté ce matin. C'est vraiment super sympa.
C'est vraiment très joli. Alors, évidemment, il n'a pas passé la nuit parce que c'est dans la friture, le cropoc, il faut qu'il reste vraiment croustillant. Mais c'est une recette formidable et c'est vraiment fait en 5 minutes. Ça demande un peu d'habileté. Je trouve qu'ils font évidemment, avec leur expérience, beaucoup mieux que moi. Mmh. Mais j'ai réussi pratiquement pour la première fois. Là, il est froid, il est mou. Bah,
il est un peu mou, c'est vrai.
Mais il a de la gueule. Il avait de la gueule.
Il avait de la gueule.
Vous avez déjà tapé dedans.
Au goût, c'est très bon. Oui, je ne cesse de taper dedans. Merci beaucoup, Daniel. Je vous souhaite un très, très joyeux Noël.
À vous aussi. Enfin, c'était hier soir. Enfin, c'est aujourd'hui.
Oui, c'est aujourd'hui. Oui.
C'est tout le temps Noël, finalement, pour nous.
Premier service avec café Kikodoro en portion sachet Chalda.
Nous allons rester donc dans
l'ambiance de Noël en ce 25 décembre. Noël, une fête aux origines diverses, aux dimensions multiples. Pour évoquer ses origines, les coutumes, les symboles liés à Noël, nous avons avec nous par téléphone ce matin Jacques Hénard. Bonjour Jacques Hénard.
Bonjour.
Je vous souhaite un joyeux Noël.
À vous aussi.
Je rappelle que vous êtes ethnologue, ancien directeur du musée d'ethnographie de Neuchâtel, puis du musée d'ethnographie de Genève. À mes côtés, Dominique Jacquard, qui s'est posé aussi beaucoup de questions à propos de cette fête de Noël. Alors, une fête, bien sûr, dans le monde chrétien, la fête de la naissance de Jésus, une fête qui est aussi une occasion sacrée de bien manger. On va peut-être commencer par là, justement, Jacques Hénard, avec le dessert, la bûche de Noël. Mais d'où vient cette tradition de la bûche de Noël ?
Alors, la bûche de Noël est une tradition qui consistait à allumer dans la cheminée. Et l'objectif était de la laisser brûler jusqu'au 6 janvier, jusqu'à l'épiphanie, afin de passer de manière agréable d'une année à l'autre. Parce que vous savez, ces traditions de fin d'année sont des traditions qui essaient de lutter contre le noir, contre la peur, et on essaye de tout mettre en œuvre pour repartir, je dirais, sur les chapeaux de roue avec une nouvelle année qui devrait bien sûr s'annoncer bénéfique. Et alors de la bûche de bois brûlée dans le cheminée, on en est passé à la bûche pâtissière que l'on mange au dessert bien souvent et qui a les signes hein, du bois puisque c'est vraiment là et on y met des petits champignons rouges avec des points blancs qui sont des champignons extrêmement dangereux lorsqu'on les cueille dans la nature.
Des amanites, hein,
des amanites, ouais. Exactement.
Ouais. Je suis peut-être allé un petit peu vite en besogne parce que j'ai commencé par le dessert, mais je crois savoir, Dominique Jacquard, que vous avez des questions par rapport au menu.
Alors bien évidemment par rapport à la dinde, en tout cas traditionnellement dans ma famille on avait chaque année la dinde, c'est au menu de Noël. Est-ce que c'est là aussi une coutume ancienne ?
Alors, c'est plus compliqué en ce qui concerne les repas. Ma femme est bordelaise, donc nous mangeons bien souvent de la dinde. Mais dans d'autres régions, on peut manger du canard, on mange beaucoup de volailles, c'est vrai. Mais elles peuvent être diverses. Et puis, je crois qu'on s'adapte véritablement selon, encore une fois, le territoire, le terroir dans lequel on vit. Et c'est peut-être un peu moins traditionnel que la bûche pour moi.
Mmh. Jacques Hénard, les origines de Noël, pour la plupart d'entre nous, c'est l'an zéro. Est-ce que c'est vraiment le cas ?
Alors non, ça, on a bricolé le calendrier longtemps. On a plusieurs origines, n'est-ce pas, Noël, linguistique, je dirais. Hein, il y a un dies natalis, c'est un jour de naissance, qui évoquerait sans doute l'anniversaire de Jésus. Et puis on a une origine plutôt, grecque, qui serait un Helios, Neos Helios, un nouveau soleil, et qui ferait référence au solstice d'hiver du 21 décembre. Et alors, je pense que les Romains faisaient beaucoup de fêtes à ce moment-là, et on sait, alors historiquement, que c'est un pape qui s'appelait Liberus qui a instauré la nativité en 354, le 25 décembre. Et ça a été un transfert, parce que le Christ, on le fait naître le 6 janvier, d'où l'Épiphanie, on l'a fait passer au 25 décembre, et ça coïncide avec l'implantation, incontestablement, du christianisme en Europe, et on admet que l'Église a adopté cette date, parce que les fêtes païennes qui avaient lieu dans l'Empire romain, du 17 au 24 décembre, étaient à maîtriser, etc., etc. Mais vous trouverez 100 000 explications, mais je pense que celle-là, elle tient bien la route et c'est un moment important où il faut quand même une certaine discipline parce qu'on vit une transition entre l'ancienne et la nouvelle année, comme je l'ai dit, et c'est quand même un espèce de moment entre guillemets de crise, hein. C'est un moment où il y a une interférence entre le monde des morts et celui des vivants qui peut être possible. La nature s'estompe, la nature languit, d'où il faudra se préparer à régénérer l'univers et par des coutumes, par des pratiques, et puis on fait du feu, on fait de la lumière, et je pense que toutes ces manifestations-là, même si on les vit plus de cette façon aujourd'hui, elles restent marquées, oserais-je l'imaginer, dans une partie de notre inconscient.
Et alors, au nombre des symboles liés à Noël, il y a aussi le sapin, il y a le Père Noël. Ils nous viennent plutôt du froid et non pas du sud. Comment apparaissent ces nouveaux symboles ?
Alors, le Père Noël, c'est une histoire assez récente. C'est une histoire américaine, malgré tout, parce que Noël, les cadeaux, les emballages, tout ça, enfin, les anthropologues, notamment à travers Claude Lévi-Strauss, qui vient de décéder d'ailleurs, nous a expliqué que c'est ce qu'on appelait de la diffusion par stimulation. Nous avons vu aux États-Unis, un peu avant-guerre, pendant la guerre, peut-être après-guerre, les gens qui emballaient leurs cadeaux dans des papiers un peu spéciaux. On a vu là le Père Noël et on a, sans véritablement l'importer directement, on l'a adapté dans notre société. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, le Père Noël est devenu un être intéressant parce qu'il est essentiellement commercial, si j'ose dire. Et on l'a longtemps confondu parce que, dans nos traditions réformées, on le confondait avec Saint-Nicolas. Oui. Alors je crois qu'aujourd'hui, l'ordre est remis. Saint-Nicolas, c'est quelque chose de clair. Il vient avec son père fouettard, et l'âne, et etc. Et il a sauvé les enfants, etc. Il donne des petites choses. Et puis alors le matraquage véritablement commercial s'est fixé sur le Père Noël qui n'a pas une tradition aussi forte que Saint-Nicolas, qui est véritablement une tradition qui date de quelques 200 ou 300 après Jésus-Christ. Et c'est quelque chose maintenant qui nous permet de comprendre l'importance du cadeau. Alors moi j'aime beaucoup parler des cadeaux à Noël, parce que anthropologiquement, c'est quelque chose de fabuleux. Le cadeau, ça vous met dans des positions impossibles. On est de plus en plus dans les jeunes générations en se disant « cette année, on se réunit tous ensemble, mais on ne se fait pas de cadeaux ». Et voilà qu'un invité débarque avec des cadeaux. Alors vous n'avez rien à donner, c'est ce que nous appelons en anthropologie, c'est l'échange du don, don contre don. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous ne pouvez pas rendre le cadeau ? Ah, puis ensuite, si le cadeau est trop important, vous êtes mal à l'aise parce que vous dites « tiens, le mien, il est un peu plus faible ». Donc il y a une espèce de système d'évaluation. Donc on peut dire que le cadeau est quelque chose de terrifiant parce qu'il vous contraint. Et c'est ce que nous avons étudié dans notre discipline, sous la forme d'une tradition des Indiens Kwakiutl notamment, qui était le fameux potlatch. Vous donnez beaucoup, mais celui qui reçoit, à un moment donné, il doit vous rendre l'appareil en rajoutant quelque chose de plus.
C'est la surenchère.
Alors dans la logique du marché dans laquelle on se trouve aujourd'hui, vous voyez que Noël, c'est quelque chose, et le Père Noël, c'est quelque chose d'hyper intéressant, parce que ces stratégies, qu'on le veuille ou non, elles continuent à perdurer.
Peut-être encore votre regard. La part du religieux est moins présente dans notre société, vous l'avez bien dit, avec les aspects commerciaux que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce que la fête de Noël, qui reste une fête importante, fait quand même exception ? Il me semble que malgré tout, malgré les aspects commerciaux, il y a quand même quelque chose qui flotte dans l'air de l'ordre du religieux pendant cette période, non ?
Je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Noël, c'est un moment quand même de respect, je dirais. Parce que respect envers une certaine discipline, entre guillemets, qui pourrait être celle de la paix, de la tolérance. Et nous avons quand même toujours envie de revoir des membres de sa famille. C'est une fête, c'est la fête du privé, Noël. N'est-ce pas, qui va précéder la fête du public, qui sera à Nouvel An et la fin de l'année, où là on se laisse aller, où on se conduit autrement. Mais vous avez raison, Noël, c'est la fête où on va chercher les ancêtres, les vieux, les malades, et on essaye de se retrouver, même si parfois ces réunions sont complexes, parce qu'elles révèlent des ambiguïtés familiales, parce qu'elles peuvent peut-être suggérer des discours un peu querelleux concernant la famille. Mais d'une manière générale, c'est vrai, on essaie de fêter Noël de manière extrêmement digne. Et là encore, je vous donnerai l'exemple anthropologique, en reprenant toujours Lévi-Strauss, qui, en parlant du cadeau de Noël, a avait fait une théorie extrêmement intéressante. Il disait que les Indiens Hopi et les Indiens Unis, ils avaient des petites poupées que vous connaissez peut-être, qui sont les poupées Kachina, qui sont très belles. Et ils donnaient ça aux enfants pour leur apprendre à suivre certaines règles de conduite, certaines règles de comportement, hein, pour les mettre à l'ordre. Et ce faisant, en donnant des Kachina aux enfants, aux petits-enfants, ben, ils s'attiraient les bonnes grâces des divinités. Et Lévi-Strauss, il faisait un parallèle intéressant en disant, peut-être qu'à Noël, cette profusion de cadeaux que nous offrons aux enfants, nous sommes peut-être un peu dans la position des Ounis ou des Hopis, hein, c'est que nous voulons, à travers ces enfants qui sont des relais, nous attirer les bonnes grâces dans l'au-delà, et peut-être qu'inconsciemment, c'est la raison pour laquelle on fait d'aussi nombreux cadeaux aux petits-enfants et aux enfants d'une manière générale.
Merci beaucoup, Jacques Hénard. Je crois pouvoir dire sans me tromper que vous avez été un de nos cadeaux de Noël sur la première, et Dominique Jacquard ne me contredira pas. On vous écoute avec un sourire béat.
Vous êtes gentil.
Vraiment.
Mais je n'aime pas les flatteries. Hein.
Non, mais c'était un constat et pas une flatterie.
D'accord, vous êtes sympa.
Non, 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 grand plaisir.
Merci,
un enrichissement, oui. Et à bientôt,
et bonne
oui.
Fête, hein.
Bonne fête à vous.
Merci,
bonne
au
fête
revoir.
À vous. À bientôt, au revoir.
Le 31 décembre, à l'heure de l'apéro, des huîtres et des amuse-bouches, c'est Flonflon et Musette avec l'Orchestre Jaune sur la première. De 19h à 22h, apéro dansant pour entamer les dernières heures de l'an neuf. Le 31 décembre, Flonflon et Musette en direct du Studio 15 de 19 à 22h sur la première. L'entrée est libre, mais les réservations sont obligatoires sur rsr.ch.
Voilà, fin dont on parle pour aujourd'hui. Rendez-vous lundi à partir de 8h30 pour une nouvelle édition, et ce sera en l'occurrence avec Philippe Girard. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Bonjour Martine Galland.
Bonjour Ambroise.
C'est mes dialogues, et c'est assez amusant parce que je crois savoir qu'il y a un lien entre ce qui vient de se passer chez nous et ce qui va se passer chez vous. Nous avions Jacques Hénard et qui citait Claude Lévi-Strauss.
Voilà, et nous on va entendre un texte de Lévi-Strauss sur ce même sujet qu'évoquait Jacques Hénard, c'est-à-dire le rite ou le culte ou la drôle de manière d'avoir fait apparaître un Père Noël dans nos fins d'année occidentales. Mmh. Alors c'est vrai qu'il dit que c'est exceptionnel pour un anthropologue de pouvoir observer quelque chose qui naît dans sa société, et c'est ce qu'il a fait. Et bon, évidemment, c'est Lévi-Strauss, donc c'était un texte bien plus long qu'on vous invitera à lire, on vous dira où le lire, mais on va faire une approche. Mmh.
C'est marrant parce qu'on ne s'est absolument pas mis d'accord, et finalement on se répond d'une émission à l'autre, il y a un petit quelque chose de la magie.
Alors lui,
Noël,
il parlait, Jacques Hénard, il parlait plutôt des Indiens.
Notamment des Indiens.
Voilà.
Ouais, notamment.
Et puis là, Lévi-Strauss, on va se concentrer sur ce qu'il a dit de l'Occident.
Je vous souhaite de très 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 belles fêtes de fin d'année.
Merci Ambroise, pour vous aussi.
Médialogue, une émission de Alain Maillard et Martine Galland.
Bonjour à tous et joyeux Noël à chacun. Le buzz aujourd'hui, c'est le PNP, le Père Noël portable, qui, à défaut de passer par la cheminée, arrive directement sur l'écran de votre ordinateur.
Allô ? Allô ? Entendez-vous ? Allô ? Ah, bonjour Martine. Il y a une énorme tempête ici au pôle Nord. Et j'avais vraiment peur de ne pas réussir à te rejoindre là-bas, en Suisse. Et ma console de Père Noël portable s'est résistée aux pires intempéries. Bon, viens, entre, entre. Une de tes collègues m'a demandé de me pencher sur ton dossier. Alors, as-tu été une bonne petite fille cette année ? Je vois ici que tu as fait de très gros efforts cette année pour passer moins de temps sur le web. Et que tu as travaillé très fort pour apprendre à tenir ta langue. Il y a toujours place à amélioration, mais ta collègue est pas mal fière de toi. Je sais aussi que tu as demandé quelque chose de très spécial comme cadeau cette année. Ah oui, un certain écran de télévision. Je crois que ça peut s'arranger si tu restes sage et es très gentille avec ta collègue. En attendant, amuse-toi. Joyeux Noël et bonne année!
Merci Père Noël. Alors, si vous souhaitez qu'il s'adresse aussi à vous de façon personnalisée ou à quelqu'un de votre choix, il suffit de quelques clics et la vidéo du Père Noël arrivera sur votre mail ou sur le mail que vous lui aurez donné. Le lien est sur la page de Médialogue. Et c'est vrai qu'on voit le Père Noël chez lui et puis il ouvre ses gros registres et il y a sa photo. Il y avait ma photo qui apparaissait dans son registre. Alors ce truc-là, c'est comme la preuve ultime.